Chapitre 2, le corps est le temple du Saint-Esprit. La responsabilité du chrétien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, dit Paul. L'homme est l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre. Il l'a créé en vue d'une noble destinée. Sur chaque partie du tabernacle humain, Dieu désire inscrire ses lois. Chaque nerf, chaque muscle, chaque faculté mentale et physique doit conserver sa pureté. Dans les plans de Dieu, le corps doit être le temple du Saint-Esprit. Nous voyons ainsi combien est lourde la responsabilité qui repose sur l'âme de chacun. Que d'hommes et de femmes doués de raison et d'intelligence dégradent volontairement leur âme et leur corps, alors qu'ils devraient employer leur talent à la gloire de Dieu. Leur vie est faite d'agitation perpétuelle. Matchs de cricket et de football, courses de chevaux les absorbent entièrement. L'alcool, accompagné de son cortège de misère, souille le temple de Dieu. Les hommes font usage d'alcool et de tabac et gaspillent ainsi la vie qui leur fut accordée en vue d'une noble destinée. Les facultés que Dieu leur a données sont perverties, leurs sens sont avilis parce qu'ils ont servi à satisfaire les désirs d'un esprit charnel. L'ivrogne vend son âme pour un verre de vin. Satan s'empare de sa raison, de ses affections, de sa conscience. Un tel homme détruit le temple de Dieu. L'usage du thé provoque de tels résultats. Et il y en a tant qui placent sur leur table l'agent de leur destruction. L'homme n'a pas le droit de léser un seul des organes de son corps et de son esprit, aucun homme, aucune femme n'a le droit d'entretenir des habitudes qui affaiblissent le fonctionnement d'un seul des organes du corps et de l'esprit. Celui qui pervertit ses facultés souille le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur ne fera pas un miracle pour redonner la santé à ceux qui continuent à faire usage de drogues qui dégradent l'âme, l'esprit et le corps et font disparaître tout intérêt pour les choses spirituelles. Ceux qui s'adonnent au tabac et à l'alcool n'apprécient pas leurs possibilités intellectuelles. Ils ne se rendent pas compte de la valeur des talents que Dieu leur a confiés. Ils permettent à leurs facultés de décliner et de s'étioler. Dieu désire que tous ceux qui croient en lui ressentent la nécessité d'un perfectionnement. Chaque faculté qui leur a été confiée doit être cultivée, aucune ne doit être négligée. Dieu veille sur l'homme, sa propriété et son œuvre. Aussi, plus l'homme approfondira la connaissance de son Créateur, plus sa vie deviendra sacrée à ses yeux. Dieu demande à ses enfants de mener une vie pure et sainte. Il a donné son Fils pour que nous puissions atteindre ce but. Il a tout fait pour que l'homme vive non pour des satisfactions animales, comme les bêtes qui périssent, mais pour Dieu et les cieux. Dieu tient des comptes, sur le plan physique, la transgression des lois de la nature aura pour conséquence la maladie, une constitution brisée, ou même la mort. Mais plus tard, l'homme devra rendre compte à Dieu. Dieu enregistre chaque action bonne ou mauvaise. Au jour du jugement, tout homme devra recevoir selon ses œuvres. Chaque transgression des lois de la vie physique est aussi une transgression des lois de Dieu. Elle sera suivie d'un châtiment. Le corps, notre demeure créée par Dieu, exige des soins attentifs et minutieux. La vie de notre organisme doit être soigneusement éduquée, cultivée et développée pour que, par l'intermédiaire d'êtres humains, la nature divine se révèle dans toute sa plénitude. Dieu s'attend que l'homme fasse usage de l'intelligence qu'il lui a donnée. Il s'attend aussi qu'il emploie à sa gloire chacune des facultés qui lui permettent de raisonner. L'homme est censé donner à la conscience le rôle prédominant qui lui a été assigné. Les facultés physiques et mentales doivent être cultivées et développées au maximum. Quand l'homme est guidé par une conscience éclairée, l'apôtre Paul a écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, The Signs of the Times, 2 octobre 1907. L'apôtre Paul mentionne ici les courses à pied bien connues chez les Corinthiens. Les coureurs se soumettaient à une rude discipline pour se préparer en vue de ces épreuves. Leur alimentation était simple. Les mets délicats et le vin leur étaient défendus. Leur nourriture était choisie avec soin. Ils recherchaient ce qui rendrait leur corps sain et vigoureux, leur procurerait force et endurance, et leur permettrait de résister autant que possible à l'épreuve. Tout excès susceptible d'affaiblir leurs facultés physiques était interdit. Si des païens qui ne bénéficiaient pas d'une conscience éclairée et qui ne craignaient pas Dieu ont su se soumettre à l'abstinence et à la discipline de l'entraînement en se refusant toute satisfaction malsaine, simplement pour acquérir une couronne périssable et les acclamations de la foule, à combien plus forte raison ceux qui participent à la course du chrétien pour obtenir l'immortalité et l'approbation du Tout-Puissant ne devraient-ils pas s'abstenir de tout stimulant et aliment malsain qui dégrade les perceptions morales, affaiblissent l'intelligence et assujettissent les facultés les plus élevées aux appétits charnels et aux passions. Nombreux sont ceux qui dans le monde assistent à l'épreuve décisive du chrétien. Mais il n'y a pas que. Le roi de l'univers et des myriades d'anges célestes sont les spectateurs de cette course. Ils regardent avec anxiété pour savoir qui vaincra et remportera la couronne incorruptible. C'est avec un intérêt profond que Dieu et les anges célestes sont témoins du renoncement, du sacrifice et des efforts suprêmes de ceux qui s'engagent à courir pour le Christ. La récompense de chacun sera proportionnée à sa persévérance et à son zèle fidèle. Un seul était sûr de remporter la victoire, au cours des jeux dont il a été question. À propos de la course chrétienne, l'apôtre Paul dit, « Je cours, non pas comme à l'aventure. Nous ne serons pas déçus à la fin de l'épreuve. Tous ceux qui respectent les conditions énoncées dans la parole de Dieu, tous ceux qui se font un devoir de ménager leur vigueur physique et le bon fonctionnement de leur corps, afin d'avoir un esprit équilibré et une saine moralité, peuvent être assurés des résultats de la course. Ils peuvent tous remporter le prix, gagner et ceindre la couronne de gloire immortelle, impérissable. Promesse au vainqueur, le monde ne devrait pas nous servir de critère. Il est de bon ton de satisfaire son appétit avec des mets délicats et des stimulants artificiels qui développent des tendances animales et s'opposent à la croissance des facultés morales. Il n'est pas possible que les fils et les filles d'Adam deviennent des combattants victorieux de la cause chrétienne s'ils ne décident pas de pratiquer une stricte tempérance. Ceux qui s'imposeront cette discipline ne frapperont pas comme battant l'air. Si les chrétiens restent maîtres de leur corps, s'ils placent leurs appétits et leurs passions sous le contrôle d'une conscience éclairée, se faisant un devoir envers Dieu et leur prochain d'obéir aux lois qui régissent la santé et la vie, ils jouiront des bénédictions que procure la vigueur physique et mentale. Ils auront la force morale nécessaire pour soutenir la lutte contre Satan. Au nom de celui qui fut maître de son appétit, ils peuvent être même plus que vainqueurs. La lutte est ouverte pour tous ceux qui désirent s'y engager.